On en parle, Philippe Gérard.
Bonjour, bienvenue dans On en parle et bonjour Jérôme Timmermann.
Bonjour Philippe.
On se penche ce matin sur le réseau des antennes 5G.
Oui, parce que la RTS a eu accès au nombre de modules émetteurs et ça c'est une donnée bien plus précise et pertinente que le nombre d'antennes pour se faire une idée de la couverture réseau. On apprend aussi dans quelle mesure la 5G est bridée ou donne sa pleine mesure. On entendra Valentin Tombé, auteur de cette enquête.
La pauvreté et le surendettement chez les jeunes est inquiétant, c'est ce que nous dit le centre social protestant Quentin Boulogne. Bonjour Quentin.
Bonjour Philippe. Oui, les centres sociaux protestants sont en première ligne pour voir ce phénomène à travers leurs consultations notamment. Aujourd'hui, ils tirent la sonnette d'alarme car les jeunes s'appauvrissent de plus en plus malgré les efforts de prévention. On en parle vers 8h45.
Et puis à partir de 9h, le guichet dont on en parle s'ouvre à toutes les questions sur l'adoption. Muriel Mera, bonjour.
Oui, bonjour. Autant celles que vous vous posez peut-être si vous êtes une personne adoptée. Par exemple, comment trouver vos origines, que celles que vous vous posez si vous prévoyez d'adopter, quelle démarche entreprendre, les pays à privilégier, le cadre juridique, etc., etc.
Et on attend vos questions au 0800 108 208. Si vous êtes occupé au travail à partir de 9h, laissez-nous un vocal par messagerie instantanée au 076 206 12 12. Et puis notre adresse courriel pour nous écrire, c'est onenparle@rts.ch. Et ce matin, Delphine Sage, Elisa Weber et Mathilde Pelletier sont présentes au standard avec Aline Blanchard en régie. On en parle, c'est vous rendre service au quotidien. On va s'efforcer de le faire jusqu'à 10h. Bienvenue. La Suisse compte environ 10 000 antennes dédiées à la 5G, mais au-delà du nombre de mâts, on ne savait pas jusqu'ici combien de modules émetteurs étaient installés sur ces antennes. Jérôme, la cellule data de la RTS nous dévoile aujourd'hui qu'il y en a près de 50 000.
C'est à la suite d'une demande d'accès aux données d'exploitation des antennes 5G en vertu de la loi sur la transparence que la RTS a pu accéder à ces informations. C'est une procédure qui a duré 3 ans, puisque les opérateurs s'y opposaient, mais le tribunal administratif fédéral a admis cette requête. Il en ressort une image bien plus précise du déploiement de la 5G dans notre pays. Vous l'avez dit, près de 50 000 modules émetteurs sont installés sur les 10 000 antennes érigées en Suisse. Swisscom se taille la part du lion avec 30 000 modules, loin devant Sunrise qui en a 3 fois moins et Salt environ 5 à 6 fois moins. Et le détail est à consulter sur le site ou l'application rtsinfo.ch dans un article et des cartes réalisées par nos confrères de la cellule Data.
Et donc le module émetteur, c'est le dispositif par lequel transite le réseau 5G.
Oui, l'antenne, en fait, c'est finalement que le mât sur lequel on accroche ces modules émetteurs. Ces modules, c'est des gros boîtiers gris clair qui sont accrochés au sommet des mâts. Et une même installation peut en accumuler, donc, de ces modules une vingtaine, voire même davantage, de différentes technologies, de différents opérateurs, ou bien évidemment orientés dans diverses directions.
Et Jérôme, qu'est-ce qu'on peut dire de la couverture réseau de la Suisse en matière de 5G?
Je vous propose d'écouter Valentin Tombé, journaliste de la cellule data de la RTS et auteur de cet état des lieux de la 5G dans notre pays.
De manière générale, et finalement sans surprise, on voit qu'il y a une large couverture en milieu urbain. Les villes sont très bien quadrillées par les antennes 5G. La plus grande densité d'émetteurs par kilomètre carré, on la retrouve à Genève et Carouge et dans plusieurs autres communes de l'agglomération genevoise. Mais c'est pas très surprenant parce que ce sont aussi les communes les plus densément peuplées du pays. On voit aussi un développement assez important sur certains grands axes, notamment le long des autoroutes ou des grandes lignes ferroviaires. Et dans les régions rurales, par contre, c'est beaucoup plus variable. Et après, bien sûr, si vous vous éloignez des zones peuplées, dans la haute montagne, y a très peu de chances que vous ayez le moindre signal 5G. Ensuite, dans le détail, la couverture, elle varie surtout d'un opérateur à l'autre. Tous n'ont pas la même stratégie, les mêmes capacités, ni les mêmes besoins. Comme vous l'avez dit, Swisscom possède plus de 30 000 des 50 000 émetteurs du pays. Donc, ils ont évidemment le meilleur quadrillage du pays. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont partout le meilleur réseau, parce que comme ils détiennent 60% des parts de marché, ils ont le plus grand nombre de clients. Donc, ils ont aussi besoin de davantage d'antennes que leurs concurrents pour assurer tout ce trafic de données. Mais évidemment, Salt, avec 5 fois moins d'antennes d'émetteurs que Swisscom, quadrillent pas le pays de la même manière. On voit par exemple qu'ils n'ont aucun émetteur 5G dans le district des Franches-Montagnes ou qu'ils en ont beaucoup moins que Swisscom dans ceux de Sion, Comté ou encore dans la Broye.
Alors si je reste sur cet aspect couverture, sur ce quadrillage, on comprend qu'il y a des régions qui sont moins bien couvertes. Ça s'explique en raison aussi de la technologie utilisée.
Oui, mais c'est difficile de répondre parce que même si vous habitez à quelques kilomètres d'une antenne, finalement vous êtes pas certain d'avoir une excellente connexion. La portée d'une antenne, elle dépend de nombreux facteurs et notamment de la topographie d'une région. Donc, si vous habitez juste derrière une colline, il se peut que le signal ne vous parvienne pas. Mais, et puis, ça dépend aussi après de la puissance et de la fréquence utilisée par les opérateurs sur ces antennes-là. Ce qui est sûr, au vu des données qu'on a obtenues, c'est que le pays reste encore largement mal couvert en ce qui concerne la vraie 5G ou ce que certains opérateurs appellent la 5G+. La vraie 5G, ce sont les hautes fréquences. On est là environ à 3,5 GHz. Ces bandes, elles permettent de transmettre un volume de données beaucoup plus important que les générations précédentes. C'est l'un des gros apports de la 5G. Et actuellement, les opérateurs y promettent des débits allant jusqu'à 2 gigabits par seconde. Mais le signal porte sur une beaucoup plus courte distance qu'avec les basses fréquences. Et en plus de ça, il n'aime pas les obstacles, il est freiné par les arbres, il pénètre mal les bâtiments. Donc en milieu urbain, la portée se limite à quelques centaines de mètres selon le fabricant d'antennes Ericsson. Et en plus de cette faible portée, les opérateurs, comme je disais, sont loin de couvrir tout le pays avec les émetteurs 5G à haute fréquence. Swisscom, qui en compte le plus grand nombre, n'en possède que dans la moitié des communes du pays. Après, bien sûr, ce sont les communes les plus peuplées, donc ils touchent quand même une vaste population, mais ils couvrent clairement pas tout le pays. Et là encore, le réseau le moins développé se trouve du côté de Salt, le plus petit des opérateurs du pays. Salt possède des émetteurs 5G haute fréquence dans moins d'un quart des communes du pays. Donc, au final, l'Internet ultra rapide promis en 2019 lors de l'arrivée de la 5G, il n'est pas encore disponible partout, loin de là.
Voilà, donc à entendre Valentin Tombé, la présence de 5G n'est pas toujours une garantie de débit ultra rapide. Et puis si je reprends ces propos, Jérôme, alors il y a une vraie 5G, une 5G+, et une fausse 5G?
Oui, et on peut savoir dans quelle proportion avec les données obtenues par la RTS. Mais en gros, on retient qu'un module émetteur sur trois transmet de la vraie, de la véritable 5G, de la 5G+. D'ailleurs, on peut rappeler que ça ne fait généralement aucune différence de prix pour les consommateurs, qu'on soit en vraie, en fausse 5G ou même en 4G. Et quant à la forme bridée de la 5G, elle ne va pas plus vite que la 4G, mais elle se démarque quand même avec une différence.
La fausse 5G ou 5G de base, ce sont les basses fréquences. Elles permettent de couvrir au maximum le territoire parce qu'elles ont une plus grande portée et de bien pénétrer à l'intérieur des bâtiments. Les hautes fréquences, là c'est la 5G+, ou vraie 5G, elles sont là pour augmenter la bande passante. C'est pour ça que les opérateurs, ils utilisent un mix d'antennes avec différentes fréquences pour construire leur réseau. Selon les opérateurs, cette 5G de base, elle permet notamment de décharger le réseau 4G, qui est parfois saturé. La bande, par contre, est la même qu'en 4G. Donc le film que vous regardez en streaming, il ne va pas se télécharger plus vite. Il y a tout de même une différence à relever, ça concerne le temps de latence. Là, on parle là de la durée nécessaire pour que les données soient transmises jusqu'au destinataire. Donc concrètement, plus la latence est faible, plus la communication semble instantanée en temps réel. Et justement, ce temps de latence est plus faible avec la 5G. Donc c'est pour ça que la 5G peut être intéressante dans le développement de nouvelles technologies. On parle souvent de l'exemple des voitures autonomes ou même d'opérations chirurgicales à distance. Dans l'immédiat, ça concerne quand même encore peu de personnes. On peut notamment penser aux amateurs de jeux vidéo qui cherchent toujours à avoir la latence ou le ping, comme ils l'appellent, le plus bas possible pour affronter leurs adversaires dans les meilleures conditions possibles. Mais en revanche, si vous regardez une vidéo sur Internet ou consultez un site, vous ne verrez aucune différence entre une connexion 4G ou 5G de base.
On fait l'état des lieux des réseaux 5G, du réseau 5G à la faveur de notre enquête, hein, celle de la cellule data de la RTS dont on entendait ici son représentant Valentin Tombé. Jérôme Timmerman, est-ce qu'il y a des différences entre opérateurs au niveau de la vraie 5G?
Alors c'est à nouveau Swisscom qui compte le plus grand nombre d'antennes 5G devant Sunrise et Salt de 5G+. Donc les trois opérateurs qui vont en principe poursuivre le déploiement du réseau, tout en faisant face, on l'a plusieurs fois évoqué dans le passé dans l'émission, à des oppositions en raison des craintes d'effets sur la santé des antennes. Mais les opérateurs n'avancent pas forcément d'objectifs chiffrés en matière de nouvelles antennes ou de nouveaux modules. On retrouve Valentin Tombé.
D'un côté, ils affirment couvrir 98 ou 99% de la population avec la 5G, que la qualité du réseau mobile est exceptionnelle en Suisse, c'est l'une des meilleures au monde. Et de l'autre, ils soulignent la nécessité de vraiment développer rapidement leur réseau et se plaignent d'un cadre légal trop restrictif. Ils se plaignent des nombreuses oppositions qui bloquent encore la construction de nouvelles antennes. aucun opérateur n'a voulu donner de chiffres ni le moindre détail sur le développement à venir de ces prochaines années. Ils expliquent tous, à l'image de Sunrise, qu'un réseau de téléphonie mobile n'est jamais complètement terminé. Il doit être étendu en permanence selon les besoins des clients, tant en termes de couverture que de capacité. Donc, pour les opérateurs, le but en ce moment est probablement de développer cette 5G+, parce que c'est là que la couverture est la moins bonne, mais c'est aussi là qu'il y a le plus de difficultés. Parce que le développement de cette 5G+, elle passe souvent par la construction de nouvelles antennes qui sont bloquées par les oppositions. La 5G de base, ou fausse 5G comme certains l'appellent, elle a pu être plus facilement déployée simplement en adaptant des antennes existantes.
Voilà, c'était Valentin Tombé à votre micro, Jérôme Timmerman. Valentin Tombé, journaliste de la cellule Data RTS, auteur de cette enquête que vous pouvez consulter sur l'application ou sur le site rtsinfo.ch. Et si ce sujet vous fait réagir, eh bien, vous pouvez nous écrire à onenparle@rts.ch ou alors nous envoyer un vocal par messagerie au 076 206 12 12. Sinon, à partir de 10h, notre répondeur sera de nouveau de service. Il vous accueillera au 0800 108 208. Comment prévenir l'endettement et la pauvreté chez les jeunes? Les chiffres sont inquiétants, nous dira Quentin Boulogne tout à l'heure. On verra quelles solutions possibles avec notre invité. On en parle en 4 minutes.
Quand au fond de camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la terre. Que mes heures se délitent, il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle de piment. Je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel. Je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment. Émerveillé, je suis l'enfant. Michel,
Olivia Ruiz, le sel à 8h47 sur RTS, la première.
Infotrafic RTS.
Attention, quelle que soit votre direction, soyez très prudent si vous circulez sur la 12 Vevey-Fribourg, car des piétons sont signalés entre le tunnel d'Avry et Rossens. Tout sur l'adoption, c'est le thème de notre guichet de tout à l'heure entre 9h et 10h. Comment entamer une procédure d'adoption? Quel lien garder avec ses parents biologiques? Vos questions, vos témoignages, on les attend au 0800 108 208 ou alors un message vocal enregistré et envoyé par n'importe quelle messagerie au 076 206 12 12. Vous pouvez aussi bien sûr nous écrire, on en parle, @rts.ch. Deux spécialistes seront là pour commenter vos témoignages, pour vous répondre aussi à partir de 9h. Et à 8h48, on s'intéresse maintenant à un phénomène encore trop méconnu, Quentin Boulogne, la pauvreté et l'endettement des jeunes.
C'est vrai que l'on s'imagine souvent qu'en Suisse, la pauvreté n'existe pas ou peu, en tous les cas, eh bien c'est faux. Elle a tendance même à augmenter au sein de la population suisse en général et en Suisse romande en particulier. Chez nous, le taux de pauvreté a quasiment doublé entre 2013 et 2021, passant de 6,8 à 13,5% selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Et lorsque l'on regarde les classes d'âge qui sont touchées par ce phénomène, on voit que les jeunes jusqu'à 24 ans n'y échappent pas. Au contraire, en 2021, toujours selon l'Office fédéral de la statistique, ils étaient 134 000 de 0 à 17 ans à être sous le seuil de pauvreté, soit près de 9% des personnes de cette tranche d'âge et 8% des jeunes de 18 à 24 ans.
Et parmi les facteurs qui mènent à la pauvreté, donc l'endettement.
Oui, il y a deux jours, une étude de Comparis montrait qu'en Suisse, entre 2017 et 2021, une personne sur six a dû emprunter de l'argent pour payer ses impôts. Parmi celles-ci, les jeunes contribuables sont les plus représentés. Hier, tous les centres sociaux protestants de Suisse romande se réunissaient pour une conférence de presse à Lausanne afin de pousser un coup de gueule et alerter sur ces problèmes de pauvreté et d'endettement des jeunes.
Caroline Régamé, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Vous êtes responsable politique sociale et recherche au CSP Vaud, donc le centre social protestant vaudois. 9% des moins de 17 ans touchés par la pauvreté en Suisse, nous dit Quentin Bollen. 8% des 18-24 ans. Comment on explique que les jeunes soient si précocement touchés par la pauvreté?
Alors, il y a différentes raisons à ça. Hein. Je pourrais compléter vos chiffres en disant que 13% des 18-24 ans sont en risque de pauvreté. Ce qui est un autre indicateur, hein, mais qui montre bien, enfin, cette précarité qui peut verser dans la pauvreté. Et puis encore, 10% des bénéficiaires de l'aide sociale qui ont entre 18 et 25 ans. Hein, c'est deux éclairages un peu complémentaires. Mais parmi les raisons, il y en a un certain nombre, hein. Alors, pour les plus jeunes, évidemment, il faut savoir que les jeunes, les moins de 17 ans, les mineurs, ils dépendent de leurs parents, hein. Donc, ils sont, souvent dépendants de leur famille qui peut être elle-même précaire, voire en situation de pauvreté. Donc, enfin, voilà, ça, c'est déjà un élément. Il y a une précarité structurelle, quand même, qui est liée au manque de ressources des familles et qui peut, je dirais, se manifester un peu par rebond, par répercussion, sur les générations suivantes. Il y a des jeunes qui renoncent à demander de l'aide, qui renoncent à demander l'aide sociale, en particulier de peur des conséquences sur le budget de leurs parents, hein, notamment parce qu'on va demander aux parents de contribuer dans certains cas, c'est le cas dans le canton de Vaud. On peut dire encore qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont en situation de décrochage, hein, décrochage scolaire ou décrochage de formation, hein, c'est quand même 7% des 18-24 ans qui sont ni en formation ni en emploi, puis qui n'ont pas de titre de formation secondaire. C'est quand même important. Puis là, les jeunes nationalités étrangères sont deux fois plus nombreux, hein, donc on voit bien l'impact de l'origine sociale et puis qu'il y a, je dirais, une égalité des chances qui a de la peine à se concrétiser malgré un certain nombre d'efforts.
Caroline Régamé, nous évoquions dans l'introduction cette étude de Comparis qui montre qu'un Suisse sur six a dû emprunter de l'argent pour payer ses impôts. Quelles sont les autres sources d'endettement? Est-ce qu'on peut le dire?
Alors, les autres sources d'endettement, c'est après les impôts, l'assurance maladie et les frais de santé, qui sont hors de prix, comme tout le monde le sait, hein, c'est un véritable problème. Après, il y a les événements critiques de la vie. Alors, séparation, divorce, mais aussi les événements plus heureux, mariage, arrivée d'enfants, des cohabitations des jeunes qui quittent leur famille. Puis après, il y a toutes les causes qui sont liées au salariat précaire, working poor, des revenus incertains, etc. Le chômage, la maladie, les accidents, etc. Donc on voit que c'est beaucoup de causes qui ne sont pas liées vraiment à la responsabilité individuelle.
Et pour ces jeunes, Caroline Régamé, alors quelles sont les ressources à disposition? Quel type d'aide en fait on peut leur apporter et qui peut leur apporter cette aide?
Alors, dans les CSP, je dirais on a encore l'opportunité hein, de recevoir des personnes qui, pour toute demande, au CSP Vaud, on a un service social jeune, j'ai de service qui est tout dévolu aux jeunes et aux personnes en formation. Et puis dans tous les CSP, les personnes pourront trouver des réponses à leurs questions. Mais je dirais généralement,
c'est pas des aides financières.
Alors c'est pas forcément des aides financières, c'est de l'appui, c'est du conseil, c'est des soutiens aussi pour démêler certaines situations, hein. Ça, mes collègues travailleurs sociaux, ils font énormément, c'est d'essayer de démêler des situations, des configurations très problématiques, qu'elles soient familiales, administratives, financières, d'accéder des droits sociaux quand il y en a, hein, parfois intervenir pour que ces aides publiques auxquelles les jeunes ont droit soient bien accordées et accorder un suivi. Mais je dirais que pour les jeunes, il y a aussi tous les guichets un peu généralistes, hein, qui sont bons à prendre et puis peut-être en première ligne chercher des informations sur ces sites très accessibles que sont Tchao. .ch et ontécoute.ch. Ontécoute, c'est pour les 16-25 ans.
Et essayer d'agir rapidement avant que la situation s'envenime. Hier, au cours de cette conférence de presse, vous parliez de problèmes structurels qui poussent les jeunes à s'endetter. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous ce que c'est.
Alors, par problème structurel, on entend finalement tout ce qui, dans le système qui est le nôtre, hein, le contexte sociétal actuel, peut générer de l'endettement. Et là, en particulier, je pourrais dire toutes les incitations à la consommation qu'il y a dans l'espace public, les publicités omniprésentes, l'argent trop facilement obtenu, le manque de contrôle des établissements financiers, hein, qui accordent des crédits, comme on le sait souvent avec un certain nombre d'examens qui sont pas suffisamment bien faits et qui mettent les gens en grande difficulté après, les maisons de recouvrement qui continuent à facturer des frais de manière illégale, tout ça qui alourdit beaucoup la facture, mais on a aussi, je dirais, toute une série de mécanismes administratifs et juridiques, notamment en cas de saisie, qui peuvent continuer à générer du surendettement. Hein, par exemple, vous êtes saisi, mais les impôts sont pas compris dans le minimum vital. Vous allez continuer à vous endetter sur cette question-là, ou pour les primes d'assurance maladie, ou encore d'autres choses. C'est quand même très intéressant, assez étonnant de penser qu'en Suisse, on a un taux d'endettement public qui est parmi les plus bas au monde, alors que le taux d'endettement privé est le plus élevé. Qu'on voit que ces dimensions structurelles, finalement, elles font intégralement partie du système.
Sur les cantons de Genève et Neuchâtel, il existe depuis récemment des lois pour lutter contre le surendettement. Est-ce qu'elles sont efficaces et pourquoi c'est important qu'elles existent?
Alors ces lois, elles sont très récentes, hein, parce que c'est, sauf erreur, 2021 pour Neuchâtel et 2024 entrée en vigueur pour Genève.
Ça montre que ça fait réagir quand même.
Oui, ce qui n'empêche que ces cantons avaient, comme bien d'autres, déjà des dispositifs, mais qui reposaient pas sur une base légale. Alors une base légale, c'est vraiment très important parce que d'un point de vue politique et aussi d'un point de vue structurel, ça ancre la volonté d'aider les personnes surendettées à s'en sortir et aussi de faire de la prévention. Et puis, je dirais que c'est aussi une garantie de moyens accordés pour ces deux objectifs. Et on peut bien s'imaginer aussi qu'en cas de finances publiques qui passent dans le rouge, le cadre légal est absolument essentiel pour que ça se maintienne.
Merci beaucoup de ces explications, Caroline Régamet. On rappelle donc tchao.ch, hein, oui. Un autre site que vous avez aussi cité.
Tchao.ch et ontécoute.ch. Parlons Cash, qui est la ligne téléphonique vaudoise pour demander des conseils par rapport à sa situation financière. Et puis tous les sites des centres sociaux protestants.
Voilà, les CSP, Dette Conseil aussi, je crois que c'est
Caritas. Dette Conseil Suisse.
Voilà, ouais. Dette Conseil Suisse. Donc autant de ressources que vous trouverez sur notre site pour venir en aide justement à ces jeunes en difficulté, en endettement. Merci beaucoup d'être venue, Caroline Régamet, commenter ce coup de gueule des centres sociaux protestants par rapport à la pauvreté et l'endettement des jeunes. Très bonne journée à vous.
Merci pareillement.
grand classique des 70s, Roger Glover avec Love Is All. L'adoption, c'est le thème du guichet de tout à l'heure. On va s'adresser autant aux parents qui veulent adopter qu'aux personnes adoptées qui veulent retrouver leurs parents biologiques. Alors quelles sont les procédures, quels sont nos droits aussi en la matière? Vos questions, on les attend au 0800 108 208 pour les poser en direct à nos deux spécialistes que nous accueillerons tout à l'heure. Ou alors vous pouvez enregistrer un vocal et nous l'envoyer via WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma au 076 206 12 12.
La première vous offre l'heure.
On en parle, ça continue après les infos. Très belle matinée à toutes et à tous. Vous écoutez RTS La Première et il est 9h.
RTS Info, Léandre Béret.
Plus de la moitié des familles peinent à joindre les deux bouts en Suisse. Impossible pour elles de mettre de l'argent de côté ou alors pas plus de 500 francs par mois. C'est ce que nous apprend une étude de l'organisation Pro Familia publiée aujourd'hui. Barnabé Fournier, cette précarité a des conséquences sur l'organisation des familles.
Elle se répercute d'abord sur le taux d'activité des parents. Ils sont plus de 50% à vouloir travailler davantage à cause de contraintes financières. Mais problème, plus de temps passé au travail signifie moins de disponibilité pour garder les enfants. Il y a certes la solution des structures d'accueil, mais les places sont rares et beaucoup de familles sondées les considèrent comme trop onéreuses. Face à une telle situation, Philippe Knegi, directeur de Pro Familia, demande une réaction politique.
Nous, Pro Familia, on soutient, si vous voulez, une baisse assez importante du coût de ces structures d'accueil pour les familles. Parce que payer beaucoup pour ces enfants pour qu'ils puissent fréquenter des structures d'accueil, ça signifie quand votre revenu a encore diminué, votre pouvoir d'achat diminue, ça signifie en fait que vous risquez de renoncer à leur donner cette possibilité de fréquenter les structures d'accueil.
Cette précarisation des ménages va jusqu'à impacter la volonté d'avoir ou non un enfant supplémentaire. Pour 4 familles sondées sur 10, les coûts sont un motif de renoncement, comme en témoigne cette maman neuchâteloise.
Ça me freine un peu parce que je travaille. Déjà, il faut trouver quelqu'un pour garder l'enfant. Il faut faire les devoirs avec l'enfant. Et puis, vraiment, ça fait beaucoup de travail après. Donc du coup, on renonce quoi à faire un enfant de plus.
De quoi inquiéter Pro Familia. Les chiffres sont alarmants, prévient Philippe Knegi, notamment au Tessin et en Suisse romande, régions les plus touchées par la précarité.
Les précisions de Barnabé Fournier. La Confédération doit soutenir l'Euro de football féminin en Suisse à hauteur de 15 millions de francs. Le Conseil des États a adopté ce matin sans opposition une motion de commission. Le Conseil fédéral voulait s'en tenir à 4 millions promis pour encourager le sport dans le cadre de cet événement prévu l'année prochaine. Le Conseil national doit encore se prononcer. Il était considéré comme l'un des principaux traders voyous durant la crise financière de 2008. Le Britannique Tom Hise, ex-employé d'UBS, a passé près de 6 ans dans une prison au Royaume-Uni. Son crime, escroquerie en bande organisée dans le cadre du scandale du Libor, qui a coûté plus d'un milliard de francs d'amende à la banque suisse. Mais il a toujours clamé son innocence, un appel finalement entendu par la Cour d'appel de Londres, qui, fait très rare, va réexaminer à partir d'aujourd'hui sa condamnation pénale. Catherine Illich.
Il s'agit potentiellement d'un énorme fiasco judiciaire. Tom Hise n'a été, d'après son avocate, qu'un bouc émissaire livré en pâture par l'establishment de la finance. Arrêté en 2012, la justice britannique lui reproche d'avoir manipulé le taux interbancaire londonien Libor pendant des années pour obtenir un plus gros bonus. 8 autres traders ont été condamnés à la prison pour des faits similaires. Mais au fil des années, les dossiers d'accusation se sont sérieusement fissurés. Un journaliste d'investigation de la BBC, auteur d'un livre sur l'affaire, a dévoilé des enregistrements téléphoniques montrant que plusieurs banques centrales, régulateurs ainsi que le Trésor britannique avaient fait pression sur des grandes banques pour qu'elles baissent leurs taux interbancaires pour mieux résister à la tempête financière. Lorsque les manipulations ont été découvertes en 2012, il fallait désigner des coupables. La colère du public était immense après les dégâts causés par la crise financière. Selon le journaliste, les traders incriminés ont fait les frais de cette chasse aux sorcières. Blanchir leur nom est aujourd'hui leur priorité absolue. Catherine Illich, RTS Info, Londres.
Et le verdict de la Cour d'appel de Londres devrait être connu dans quelques semaines. TikTok voit la porte américaine se fermer. La Chambre des représentants a adopté hier une proposition de loi qui prévoit l'interdiction du réseau social aux États-Unis, dont l'issue au Sénat reste incertaine. Pour rester, la plateforme devrait couper ses liens avec sa maison mère, ByteDance, et plus largement avec la Chine au nom de la sécurité nationale. Pékin dénonce ce matin des méthodes de voyous de Washington et un vote contraire au principe de concurrence. Bienne revient de loin dans le championnat de National League de hockey sur glace. Proche des vacances il y a deux semaines, les finalistes de la saison dernière se sont qualifiés finalement pour les playoffs. Après avoir sorti le champion Genève Servette au premier tour des play-in, Bienne a éliminé Ambry hier soir en s'imposant au Tessin 4-2. Le capitaine Gaëtan Haas.
Heureusement, on a pris les devants direct 2-0. C'est clair, ça a un peu assommé le public parce que si tu les laisses enflammer, ça aurait été une soirée compliquée. Puis ensuite, on a été très fort derrière. On s'est sacrifié comme au cours de la première série. Et ouais, je pense qu'à la fin, on n'a rien volé.
Ah, c'est fou ces deux dernières semaines, Gaëtan.
On sort de loin. Enfin, on était très loin. À un moment, on n'avait plus notre destin en main. On a continué à y croire. On s'est accroché. On a montré du caractère. Une belle réaction. Je pense que pas mal de monde retrouve la confiance. Et là, on est enfin de nouveau égalité avec tout le monde et le peu qu'au mieux.
Gaëtan Haas avec Bernardin Lehmann en quart de finale des playoffs. Bienne affrontera Zurich dès samedi. Les volleyeuses du NUC ne sont pas passées loin hier en match aller de leur première finale européenne. Elles ont été défaites 3-0 avec 2-7 serrés à Neuchâtel contre Chieri. Match retour de cette finale mercredi en Italie. Deux copines d'un zoo allemand pourraient rejoindre le Jura bernois. La panthère noire Bagheera et la lionne Snowy ont grandi ensemble et développé une amitié particulière et unique, selon le directeur du Siki Park de Kremin. Aucun autre parc n'est d'accord de les détenir ensemble. Alors il s'engage pour les réunir et préserver cet amour contre nature, comme il le dit. Pour cela, le Siki Park doit leur offrir un enclos qui demande des installations spécifiques et donc un financement. La journée s'annonce ensoleillée partout, malgré toutefois quelques voiles nuageux. Les températures monteront même jusqu'à 18 degrés aujourd'hui en pleine. Demain, du soleil encore, mais les nuages vont augmenter en cours de journée. Des averses vont même se généraliser en soirée. Un coup de tonnerre sera même possible localement. Il fera jusqu'à 16 degrés demain.
La météo avec Habitat Jardin. Le rendez-vous des propriétaires de biens immobiliers du 14 au 17 mars à Lausanne. Infotrafic RTS.
Sur la 12, Vevey-Fribourg, la police a levé l'alerte à la présence de piétons entre le tunnel d'Avry et Rossens. Mais des retards de 20 à 25 minutes sont à prévoir sur l'autoroute Martigny-Lausanne entre Montreux et Chèbres en direction de Lausanne. Sur la 12, Fribourg-Vevey entre Châtel-Saint-Denis et l'échangeur de l'Aver en direction de Vevey. Et sur l'axe Lausanne-Genève entre Gland et Coppet en direction de Genève. Les véhicules accidentés sur ce dernier tronçon ont toutefois été évacués. Sur le contournement de Genève, un autre accident bloque la voie de droite et ralentit fortement le trafic entre Mérin et le tunnel de Confignon en direction de la France. Et puis en région lausannoise, la route de la Blécherette entre la jonction autoroutière et la route de Romanel est fermée dans les deux sens à la suite d'un accident. En conséquence, des bouchons sont signalés sur la route de Châtelard ainsi que sur les voies de sortie de la Blécherette.
Pour sa 38e édition, le FIF, Festival International du Film de Fribourg, passe au platine avec un set d'anthologie. La Haine, 8 Mile, La Ciudad de las Fieras ou encore Casablanca Beats.
Il en arrive la raison principale à l'âge dans le hip-hop. Allô.
La culture hip-hop sera à l'honneur du 15 au 24 mars. Voyagez également en Macédoine du Nord avec le premier panorama au monde consacré à cette cinématographie passionnante. Ou venez frissonner devant les séances de minuit. Programme complet sur fiff.ch. Avec la RTS, décryptons le mouvement hip-hop et son rayonnement dans Ramdam, le jeudi 14 mars à 22h30 sur RTS 1 et l'application Play RTS. On en parle. Philippe Gérard.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission, partie interactive, ouverte à vos questions. C'est notre traditionnel guichet quotidien. Et ce matin, on parle d'adoption, Muriel.
Oui, adoption en forte diminution depuis les années 80. En moyenne, environ 40 enfants sont adoptés chaque année par des Suisses ou des personnes résidentes en Suisse. Et comme l'adoption peut susciter des questions tant chez les personnes désireuses d'adopter, comment s'y prendre, quel pays privilégier, quel âge faut-il avoir pour pouvoir adopter, que chez des personnes adoptées, comment faire pour trouver des informations sur ses origines? Est-ce obligé d'avoir besoin, envie de connaître ses origines, vers qui se tourner pour obtenir de l'aide, etc., etc. Eh bien, du coup, nous consacrons notre guichet à ces deux aspects. Alors que vous soyez une personne adoptée ou une personne souhaitant adopter, n'hésitez pas à nous appeler pour poser toutes vos questions à nos deux invités.
Et nos deux invités, je vous les présente tout de suite. La première, c'est vous, Sitara Chameau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste spécialisée dans les questions d'adoption internationale et coordinatrice de l'association BARO, B-A-R-O, donc Bureau d'aide à la recherche des origines. Yes. Quel type de soutien votre bureau, donc votre association BARO,
votre BARO.
BARO, bureau, pourquoi je dis BARO, BARO, peut-elle apporter aux personnes en quête de leur origine?
Oui, je vous remercie de l'invitation. Donc effectivement, BARO souhaite répondre aux besoins des personnes adoptées en recherche d'origine. Donc on les accompagne au niveau, on va dire, administratif et aussi à identifier justement les besoins, puisque comme vous l'avez dit en introduction, pas toutes les personnes vont chercher leurs origines, mais celles qui le font ont besoin d'un accompagnement professionnel. Pour déjà lire les documents d'information et puis faire des éventuelles recherches.
Vous-même, Sitara Chameau, vous êtes une personne adoptée. Vous avez eu besoin, vous, de partir en quête de vos origines?
Oui, alors à titre personnel, j'avais fait une demande par rapport à des informations quant à l'histoire de mon adoption. C'est aussi une des informations qu'on donne aux personnes qui nous contactent. C'est vrai que ça dépend aussi des pays d'adoption, des pays d'origine, pardon, puisque dans certains pays, au niveau administratif, au niveau des possibilités d'avoir des informations, ça peut être aussi difficile. Donc on a une information qui vient parfois des orphelinats ou des institutions, mais parfois c'est difficile d'aller plus loin, simplement par manque d'informations pratiques.
Et si vous avez souhaité créer votre propre association, c'est pour pouvoir offrir aux gens ce que vous-même auriez aimé trouver quand vous vous êtes intéressé à vos origines?
Oui, entre autres. Après, c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que je travaille auprès des personnes adoptées ou des familles adoptives, et puis c'est vrai qu'on a identifié ce besoin de pour les personnes adoptées en recherche d'origine de pouvoir être accompagnées et pouvoir consulter les documents avec des professionnels.
Oui. Alors, consulter les documents, c'est une chose, mais est-ce que vous cherchez aussi, vous aidez aussi les personnes à chercher leur origine, ou vous allez peut-être pas aller sur place, mais disons, vous avez des contacts aussi dans les pays d'origine, d'adoption, pour effectivement faire des recherches sur place?
Alors, la partie sur les recherches sur place, ça sera plutôt avec le Service Social International. Par contre, on est en collaboration avec elle et eux, mais c'est vrai que c'est plutôt de faire toute la partie de pouvoir savoir les besoins des personnes adoptées, et puis aller ou pas ensuite plus loin, entre guillemets, puisque comme je le dis, il n'y a pas de but dans une recherche d'origine. Il n'y a pas de quête de forcément le parent ou la parenté biologique. L'idée, c'est vraiment d'avoir un narratif et puis un récit sur sa vie d'avant l'adoption et de pouvoir avoir le maximum d'informations sur pourquoi on a été séparés de nos premières familles.
Ça, c'est donc le premier aspect de ce guichet sur l'adoption à la recherche des origines. Vous représentez ici l'association BARO, Bureau d'aide à la recherche des origines, Sitara Chameau. Et à vos côtés, il y a Macarena Facio. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes également juriste et directrice de l'association Espace A, donc spécialisée dans les questions liées à l'adoption. Alors, même question qu'à Sitara Chameau, Macarena Facio. Quel type de soutien Espace A peut apporter aux personnes qui souhaitent adopter ou qui ont adopté? Parce que là, on s'adresse plutôt aux personnes qui, justement, aux parents, par exemple, qui cherchent à adopter.
Tout à fait. Alors, l'association est active depuis 25 ans et ça fait depuis 25 ans que nous accompagnons les candidats à l'adoption par des soutiens psychologiques, notamment dans l'aide à formuler leur projet, mais aussi par les ateliers de préparation à l'adoption, par des conférences, enfin tout un soutien psychologique pour ceux qui sont candidats à l'adoption, et puis également aux personnes qui ont déjà adopté reviennent souvent à l'époque de l'adolescence avec les enfants quand ils ont des petits soucis ou des petits problèmes, ou juste pour franchir des étapes. Et puis ainsi que les personnes qui ont été adoptées, on les accompagne également, on propose un soutien psychologique, et pour les cantons de Genève, on les accompagne également dans leur recherche d'origine.
Quand vous dites, Macarena Facio, que vous proposez du soutien psychologique pour des personnes qui souhaitent adopter,
oui,
quel type de soutien psychologique on a besoin quand on veut adopter?
C'est-à-dire que dans la formulation d'un projet d'adoption, il faut comprendre les enjeux qui signifient l'adoption. Il faut déjà démystifier ce qu'on comprend par adoption. Parce que souvent, dans l'imaginaire du public ou en général, l'adoption était comprise comme une façon d'avoir un enfant. Alors que la filiation, c'est plutôt une conséquence du fait d'adopter, mais c'est pas le but de trouver un enfant pour une famille, c'est bien tout le contraire, c'est de trouver une famille qui peut s'occuper d'un enfant qui a besoin, qu'on s'occupe de lui pour différentes raisons. Donc voilà, la première étape, c'est démystifier ce qui signifie l'adoption. Ensuite, il faut dire que les candidats à l'adoption, souvent, se posent la question, mais pourquoi moi, je dois suivre des ateliers, pourquoi je dois me préparer? Eh bien, c'est parce que les enfants qui sont accueillis au but d'une adoption sont des enfants qui ont des besoins particuliers par leur situation familiale. Peut-être qu'ils ont subi des violences. Peut-être ils ont des soucis de santé, peut-être ils sont voilà, ils peuvent avoir plusieurs éléments qui font que ils ont besoin justement d'une famille qui soit préparée à les accueillir. Pas une famille parfaite, mais je veux bien dire une famille qui est préparée à surmonter les challenges. Et puis dernièrement, la dernière chose, je m'excuse, j'ai pas un peu de temps.
Non, allez-y.
c'est que souvent quand il s'agit d'un couple, souvent ils arrivent après un parcours de procréation médicalement assistée qui n'a pas fonctionné. Alors, il faut évaluer si le projet d'adoption, il faut les aider à cheminer pour voir si le projet d'adoption correspond à leur projet de vie, à leur projet de famille. Parce que parfois, ils se rendent compte, après être assistés aux ateliers, qu'en fait, c'est un projet qui ne correspond pas à leur façon de faire famille. Et pour les personnes célibataires aussi, on les accompagne parce que c'est nécessaire qu'elles sachent à quoi elles vont être confrontées.
Et un enfant, ça prend de la place, c'est ça?
Un enfant, ça prend de la place, mais surtout, un enfant, il a des besoins. C'est pas un petit chien qu'on pourra tout simplement, je m'excuse, mais c'est pas un petit chien qu'on va poser tout simplement à la maison. Et même les chiens, ils ont besoin de bons maîtres. Et puis, on attire beaucoup l'attention maintenant sur la recherche d'origine probable, possible, qui viendra dans le futur, parce que maintenant, avec l'expérience qui font les personnes ayant été adoptées de la génération des Sitara, on sait beaucoup plus sur leurs besoins.
Mais est-ce qu'il y a une loi? Parce que les personnes qui sont nées via donneur, il existe une loi aujourd'hui qui dit qu'elles ont droit d'avoir accès à l'origine de leur donneur, à leur majorité. Est-ce qu'il y a une loi qui stipule la même chose pour les personnes adoptées? Sitara Chameau?
Alors, dans le Code civil suisse, hein, il y a une information comme quoi on est censé avoir accès aux informations concernant la famille biologique, donc les parents ou les frères et sœurs biologiques, si on les a. Et puis, plus généralement, dans les conventions des droits de l'enfant, il y a une information au droit à l'identité, etc. Donc, voilà, on pourrait se poser là-dessus. Après, le droit ne fait pas la réalité. Donc, effectivement, même s'il y a un possible droit à l'information pour pouvoir avoir accès, ça peut être difficile.
Macarena Facio.
Et même, d'après le Code civil, en fait, les parents ont l'obligation, selon la maturité de l'enfant, de l'informer qu'il a été adopté.
Donc voilà les choses, le cadre est posé, hein, nous parlons d'adoption ce matin à notre guichet avec nos deux invités, Macarena Facio, juriste de formation et directrice de l'Espace A, donc association spécialisée dans les questions liées à l'adoption, et Sitara Chameau, juriste également à l'association Barreau, le bureau d'aide à la recherche des origines. Et on attend bien sûr vos questions, appelez-nous au 0800 108 208, si vous avez des témoignages aussi à partager avec nous, vous pouvez donc nous appeler 0800 108 208, si vous n'êtes pas disponible pour passer en direct, vous enregistrez un vocal que vous nous envoyez par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, toutes ces plateformes fonctionnent, au 076 206 12 12, et puis reste aussi le mail, l'adresse mail de l'émission, on en parle @rts.ch.
Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis
une solution. Je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. Le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire. Mais je suis au fond. C'est par le temps. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière.
Le chanteur valaisan Théo Marclay, alias Nuit Incolore, qui lui est né au Vietnam, où il a été justement adopté par une famille suisse à l'âge de 5 mois. Voilà de quoi illustrer donc le thème du guichet de ce jour, l'adoption. C'est un titre découvert, ou plutôt déniché par notre programmateur musical Jean-Baptiste Roumains. Donc clin d'œil au thème du guichet du jour.
Le guichet dont on parle, 0800 108 208.
Et jusqu'à 10h, donc, nous parlons d'adoption avec nos deux invités, Macarena Facio de Espace A, donc association spécialisée dans les questions liées à l'adoption, et Sitara Chameau de l'association Barreau, le bureau d'aide à la recherche des origines. Nous avons reçu cette première question d'Antonella Muriel Mera.
Oui, Antonella se demande si le processus d'adoption est le même pour les couples hétéros et les couples homosexuels. Macarena Facio?
Alors oui, la procédure est exactement la même, simplement...
Il faut être marié déjà.
Il faut être marié. Mmh. Voilà, c'est ça la question. Alors, le problème, c'est que certains pays demandent plus de temps de mariage que d'autres. Et nous le savons bien, les mariages pour les couples homoparentaux ou homosexuels a été autorisé que depuis une année. Donc, même si c'était pacsé avant, le fait d'être marié depuis seulement une année peut péjorer les processus, mais bon, c'est des choses à discuter en fait avec avec l'autorité cantonale de leur domicile. Mais oui, la procédure est exactement la même.
Donc là, vous parlez des conditions des pays vers lesquels on peut se tourner pour adopter, qui vont peut-être demander 3 ans de mariage, 5 ans de mariage, etc. Mais en Suisse, pour qu'un couple puisse faire une demande et soit agréé par son canton, là, c'est quoi le cadre? Il faut un âge minimum, un certain nombre d'années de mariage?
Alors, c'est 28 ans minimum. Il faut être marié et puis il faut 300 des vies communes.
Mmh. Et il y a un âge maximum aussi?
Alors,
Vous faites bop avec la main, si t'as un chameau.
Oui, en fait, donc dans les conventions internationales, il faut 45 ans d'écart maximum avec l'enfant qu'on adopte. Donc, effectivement, tout dépend de l'âge des parents. Après, aujourd'hui, on sait aussi qu'on adopte souvent des enfants qui sont pas des bébés. Donc, ça, parfois cet âge, et qu'on adopte des enfants entre 3 et 5 ans ou plus.
Oui, ma carrière patio.
Et puis, il faut dire que la question de l'âge est importante, parce qu'on ne peut pas faire suivre un enfant, subir un nouvel abandon. C'est-à-dire que si vous adoptez à l'âge de 60 ans, j'en sais rien, 65 ans, peut-être pour vous, vous vous sentez tout à fait capable. Mais dans 15 ans, ou j'en sais rien, vous allez décéder et vous allez laisser à nouveau cette personne, qui sera un adulte certainement, mais vous allez laisser cette personne seule.
On parle d'adoption au guichet, dont on en parle avec Muriel Mira qui co-anime ce guichet, qui l'a préparé d'ailleurs pour nous, jusqu'à 10h avec nos deux invités. L'adoption, alors tout n'est pas tout rose non plus dans ce monde de l'adoption, Muriel. Hein.
Non, en effet, fin 2023, un rapport mandaté par le Conseil fédéral a pointé des irrégularités dans le processus d'adoption en Suisse. Ces irrégularités ont eu lieu dans les années 70, 80 et 90. Elles concernent des milliers d'enfants originaires d'une dizaine de pays. Puis alors, hasard des agendas, au moment où sortait ce rapport, le Conseil fédéral a également communiqué sur un projet de révision du droit de la filiation, droit qui englobe celui de l'adoption à l'international, donc ça va modifier ce qui a permis ces irrégularités. Mais par rapport à ce rapport, avant de nous intéresser, hein, enfin on a déjà commencé un peu, mais avant de poursuivre par rapport aux procédures actuelles en matière d'adoption, de quel type d'irrégularité on parle dans ce rapport, Macarena? Ah, je vois que vous levez la main, Sitara Chameau, parce que là, on a parlé d'irrégularité, alors que moi, j'ai lu différents articles dans la presse qui citaient clairement, qui parlaient clairement d'adoption illégale et non pas d'irrégularité. En plus, c'est dur à dire. Donc, de quoi on parle, Sitara Chameau?
Oui, alors c'est pour ça que je voulais rebondir. C'est vrai qu'il y a différentes sortes en fait de situations qui se retrouvent dans ces dossiers. Il peut arriver de ce qu'on appelle clairement la traite d'enfants avec voilà.
Donc là on est illégal,
voilà,
c'est clair.
Donc là on est dans l'illégalité la plus totale, avec ou non la complicité de certains intermédiaires, etc. Et puis il peut y avoir ce qu'on appelle un peu les irrégularités, c'est aussi quand il y a des documents manquants, notamment le consentement par exemple des parents biologique, parce que dans beaucoup de pays ça a été difficile de les obtenir, alors que dans le droit international et dans le droit suisse c'était une des informations qu'il fallait obtenir pour que les enfants soient adoptables. Il y a aussi des informations qu'on n'a pas, et c'est pour ça qu'on appelle ça irrégulière, parce qu'on peut pas les obtenir, et puis on peut pas les qualifier puisque on ne sait pas exactement ce que ça peut être, mais ça peut être des dates de naissance. Les dates de naissance c'est très compliqué dans l'adoption, mais disons un âge qui a été donné aux personnes adoptées. Ça peut être les conditions dans lesquelles elles ont été retrouvées qui sont pas claires. Ça peut être des changements de nom. Ça peut être aussi certains cas, par exemple, il y avait un enfant qui pouvait décéder, qui était censé partir en adoption, puis on pouvait remplacer l'enfant
par un autre,
sans refaire tous les papiers, puisque les papiers étaient prêts. Donc ça, c'est des choses auxquelles on a déjà été confrontés. Alors c'est illégal, irrégulier, c'est des fois difficile de se prononcer.
Macarena Facio, je vois que vous levez le doigt.
Oui, pour nous, c'est très important de parler, de faire un peu la différence, ou de parler tout simplement des adoptions irrégulières qui peuvent aller d'une simple irrégularité jusqu'à la illégalité. Et il faut tenir compte que les personnes qui ont été adoptées, qui sont des adultes aujourd'hui, nous écoutent. Donc c'est important aussi de soulever le fait qu'il ne s'agit pas toutes les personnes adoptées, il s'agit des adoptions illégales. Pas tous les parents qui sont partis en voyage et puis qui sont revenus avec un enfant adopté sont des voleurs d'enfants. Ça, il faut vraiment les signaler, parce que nous, par rapport à la recherche d'origine, à chaque fois qu'on parle d'adoption illégale, on reçoit des gens catastrophés qui disent « mais mon adoption a été illégale, je veux absolument savoir ce qui s'est passé ». Il faut dire aussi que les irrégularités ont été commises. Là, il s'agit d'un rapport sur les adoptions internationales, mais nous, on a vu que les irrégularités, c'est pas seulement dans les dossiers des adoptions internationales, c'est aussi dans les adoptions des personnes nées en Suisse, adoptées en Suisse, qui ont aujourd'hui 50 ans et plus. Donc, ça peut effectivement aller d'une simple irrégularité, comme c'est, par exemple, de payer l'institution ou d'amener l'enfant chez soi quand l'enfant avait 3 jours de vie, alors qu'en principe, il doit être placé jusqu'à ce que la mère confirme son consentement, jusqu'au fait que, on peut changer l'identité, enfin, toutes sortes de choses.
Oui, le choix des mots est important, c'est ce que vous nous dites, Macarena Facio, d'Espace A. Donc on parle d'adoption ce matin avec nos deux invités, avec Sitara Chameau aussi de l'association Barou, le bureau d'aide à la recherche des origines. Et on attend bien sûr vos commentaires, vos questions, vos témoignages au 0800 108 208 ou alors par écrit à onenparle@rts.ch. On a cette question de Daniel Diverdon, Muriel.
Oui, qui nous dit que son père a été adopté et ses quatre frères et sœurs, eux, ont été mis en orphelinat. Et il se demande où est-ce qu'il peut s'adresser pour trouver les origines de son père. Macarena Facio ou Sitara Chameau, vous avez une piste pour Daniel? Oui, Macarena?
Alors, d'abord, il faut savoir que l'identité des frères de son père ne lui seront pas communiquées tout de suite, sans savoir le consentement de ces personnes. Donc, ça serait plus simple que ce soit les pères qui fassent la recherche, qui aient cette demande. Il doit s'adresser à l'autorité cantonale de son domicile, à l'autorité cantonale compétente en matière d'adoption de son domicile, pour faire cette demande.
Donc là, sur la fratrie, un enfant a été adopté, les quatre autres mis en orphelinat. Dans l'absolu, est-ce qu'un conseil à donner à une famille, enfin, est-ce que c'est mieux d'adopter toute une fratrie quand c'est possible, Sitara Chameau?
Oui, bien sûr. Bah, c'est une pratique qui a pu avoir été faite il y a des années, de séparer les fratries. Après, ça a toujours été déconseillé. Et puis, il y a aussi vraiment une demande pour pouvoir garder les fratries ensemble. C'est ce qu'on appelle aussi les adoptions special needs, qui sont notamment...
un besoin spéciaux, en fait.
Un besoin spéciaux.
On va accueillir un premier téléphone, celui de Fatma, qui nous appelle au 0800 108 208. Bonjour Fatma.
Oui, bonjour. D'abord, merci pour cette émission, parce que c'est extraordinaire d'entendre des histoires. Mais moi, je voulais juste apporter un petit témoignage, dans le sens que j'ai eu la chance de connaître un couple, une merveille sur cette terre. Et je n'ai pas été adoptée parce que j'avais encore une maman qui était à l'étranger. Ces personnes m'ont connue dans les hôpitaux et ils se sont occupés de moi d'une façon que je qualifie extraordinaire, gentille, bienveillante. Et jamais, ces personnes se sont mises à la place de ma maman, qui vivait donc dans un pays pauvre. Et ils m'ont toujours parlé d'elle. Ils m'ont fait écrire. Et ils disaient, nous, on est là pour t'aider, pour t'aimer, pour que tu grandisses bien. Et tu sauras que tu n'as qu'une seule maman, c'est celle qui vit en Algérie. Alors voilà, c'était ça que je voulais dire. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. J'en parle avec émotion parce qu'ils sont loin les deux.
On sent cette émotion, Fatma. Merci beaucoup de ce témoignage. En fait, vous avez été, alors c'est sûr, c'était une autre époque, hein, mais vous avez été quelque part adopté sans passer par la procédure d'adoption. Et puis, ce que je retiens de ce témoignage, c'est l'importance finalement pour les parents adoptifs de dire à l'enfant adopté que ce ne sont pas ses vrais parents. Ah, comment on fait?
Ses parents biologiques.
Oui, c'est vrai. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est difficile de trouver déjà les bons mots. Comment on présente les choses en fait à l'enfant et puis à partir de quel âge on peut en parler, Macarena Facio?
Alors à l'enfant, on est censé de lui parler de son adoption depuis toujours, selon son degré de maturité, comme on dit la loi. C'est pas qu'on attend un jour, ok, aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, je vais lui parler, je vais lui expliquer qu'il est adopté. Avec des mots tout simples, on peut tout à fait expliquer à l'enfant comment il est arrivé sous cette terre, comment il est arrivé dans cette famille.
Faisons l'exercice. Voilà, moi, j'ai 4 ans, j'ai été adopté, vous êtes ma mère adoptive, qu'est-ce que vous me dites?
Je vous dis que je voulais m'occuper d'un enfant, que je voulais aider un enfant à grandir. J'avais une envie de faire famille et que grâce à son arrivée dans ma vie, j'ai pu créer une famille.
Donc c'est pas toi ma maman?
Voilà si, ce que je réponds. Si, c'est moi ta maman parce que c'est moi qui m'occupe de toi. Oui. Par contre, tu es arrivé sous cette terre par une autre personne qui est ta mère biologique.
Elle est où, cette mère biologique?
Elle est dans un pays, dans un autre pays, mais tu pourras aller la chercher si un jour, si tu as envie, on fera les chemins inverses pour essayer de trouver cette personne, si tu ressens le besoin, toutefois.
Et quand, oui, si tu arraches un mot, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je vous remercie, et puis merci pour le témoignage qui était très touchant. Effectivement, donc l'information à la personne adoptée ou l'enfant adopté au moment de son adoption, elle est importante, elle est primordiale, mais en fait, elle doit faire partie vraiment du narratif familial depuis le début. Donc avec les adoptions internationales, c'est vrai que ça s'est presque fait d'office, puisque les enfants avaient des traits physiques, etc., qui étaient différents de leurs parents adoptifs. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment déjà une information qui peut se faire aussi avec le support de photos, de quand on est de l'orphelinat ou de l'institution, de quand on est allé les chercher, etc. Ensuite, ça montre aussi qu'il peut y avoir vraiment toute forme de famille, et puis c'est important de le souligner, puisque là, il y avait des parents qui s'en occupaient, et puis la maman avec qui apparemment elle avait en plus des liens, une maman biologique quelque part.
Mais est-ce que, dans le même ordre d'idées pour construire ce narratif, est-ce que c'est important, par exemple, d'apprendre à l'enfant la langue d'origine de son pays, d'aller en vacances là-bas, de vraiment construire des liens avec son pays d'origine? Je vois que vous secouez la tête, Macarena Fontio.
Alors, d'abord, je voulais dire que c'est pour ça que c'est important, c'est à ça qui sert les associations qui sont présentes aujourd'hui. C'est pour accompagner justement les familles à élaborer ces récits et élaborer déjà le projet. Alors, par rapport à parler la langue, aller dans le pays, en tout cas, les psychologues qui travaillent avec nous sont vraiment dubitatifs. C'est-à-dire que ça va cas par cas. C'est-à-dire, c'est important que l'enfant sache d'où il est. Ça serait intéressant qu'il ait dans sa vie, et en arrivant en tant qu'adulte, une référence culturelle qui lui permette de faire un miroir, si ce n'est qu'un miroir génétique. Quant à les forcer à apprendre la langue...
Pas les forcer, mais si l'on éprouve le désir.
Mais comme tous les enfants. J'entends tous les enfants dans une famille, un jour, ils vont dire « Ah, j'ai envie d'apprendre la batterie, le piano, ou apprendre à parler chinois. » On va dire « Oui, ok. » Pour un enfant qui a été adopté, c'est la même chose. Mais disons, il n'y a pas besoin que la famille, que les parents s'habillent comme les personnes africaines, par exemple, si j'ose dire, qui transforment complètement, mimétisent leur appartement. C'est pas ça qui va faire que l'enfant se sent bien accueilli, mais effectivement, c'est bien d'avoir des références, c'est bien de proposer si l'on ressent le besoin.
Il est 9h35, vous écoutez, on en parle. Le guichet de ce jour est consacré à l'adoption. Nos deux invités sont Macarena Fascio, juriste et directrice de Espace A, et Sitara Chameau de l'association Barreau, le bureau d'aide à la recherche des origines. On attend vos questions. N'hésitez pas, appelez-nous au 0800 108 208, questions ou témoignages, comme l'a fait Fatma tout à l'heure, mais vous pouvez aussi nous écrire à onenparle@rts.ch ou nous envoyer un vocal au 076 206 1212. On prendra d'ailleurs tout à l'heure une question qu'on a reçue de Lilia par WhatsApp. Mais tout de suite, on se rend sur la route.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Vevey-Lausanne, un nouvel accident s'est produit entre l'échangeur de Lavers et Chèbre et ralentit fortement le trafic en direction de Lausanne. En région lausannoise, la route de la Blecherette est fermée dans les deux sens entre la jonction autoroutière et la route de Romanel à la suite d'un autre accident. En conséquence, des bouchons sont signalés sur la route de Châtelard ainsi que sur les voies de sortie de la Blecherette. Il est conseillé d'éviter ce secteur dans la mesure du possible.
She was me.
where she got married. Abatina, oi, who you have there breaking down the door? Tina should have outlived us. Now we pray that she will forgive us. Abatina, oi, who you have there breaking down the door? Tina was no deceiver. Few were inclined to believe her. Abatina, oi, who you have there breaking down the door?
Le guichet dont on parle, 0800 108 208.
Voilà, et avant cela, on entendait Abatina, c'était Calypso Rose sur la première. 0800 108 208, ben c'est le numéro qu'on vous encourage à composer, encore jusqu'à 10h, pour nous poser toutes vos questions sur l'adoption, avec nos deux invités qui sont là pour vous répondre, pour commenter justement toutes vos questions. Macarena Facio de Espace A et Sitara Chameau de l'association Barreau, le bureau d'aide à la recherche des origines. Et Muriel Mira, qui co-anime ce guichet, qui après l'a préparé avec moi, on a reçu une question par WhatsApp.
Une question, remarque, témoignage, on va dire, de Lilian, qui trouve qu'on n'explique pas assez les problèmes de neurodéveloppement des enfants adoptés aux familles adoptives. Macarena Facio.
Alors, je vous remercie pour ces commentaires, témoignages, questions. C'est pourquoi c'est important pour les candidats à l'adoption de participer aux ateliers qui sont proposés, parce que justement, par exemple, un des modules que nous on propose, c'est un module sur la santé de l'enfant. Il faut savoir qu'il est donné par un pédiatre spécialisé dans les questions des enfants adoptés. Il faut savoir que quand vous êtes candidat à l'adoption, vous avez le droit à examiner les dossiers médicaux de l'enfant qui vous est proposé à accueillir en vue d'une adoption. Mais pour ça, il faut savoir, il faut examiner ces dossiers. Il faut pas simplement les recevoir, mais il faut bien l'examiner. Donc, ces questions, les problèmes neurologiques, mais aussi des problèmes de puberté précoce, les problèmes de malnutrition sont discutés avec la pédiatre.
Mais juste par rapport à cette chose de de complications neurologiques par rapport au développement, est-ce que vous arrivez à expliciter en fait ce que ça signifie? Parce que je comprends pas bien en fait. C'est un enfant qui aura du retard?
Oui. Oui, c'est des enfants qui peuvent avoir des retards. C'est des enfants, par exemple, dont la mère biologique a été toxicomane. Et puis, ça peut se manifester par la suite par des problèmes neurologiques, par des problèmes comportementaux, par des retards dans l'éducation ou dans les apprentissages. Oui. Alors, on peut jamais estimer, on peut jamais être 100% sûr, comme tous les enfants. On parle des risques, en fait. Le dossier médical, il parlera des risques. Et puis ça, on rend toujours attentif à l'aide de la pédiatre quels sont les éventuels soucis que ces enfants peuvent présenter par après, par la suite.
Et quel autre type de risque une personne adoptée peut trouver sur son chemin en grandissant? On entend souvent, par exemple, que les adolescences sont compliquées ou que trouver sa place dans la société, c'est compliqué, si t'as un chameau.
Oui, alors effectivement, quand on vit une adoption, il faut surtout parler du fait qu'on a vécu une première séparation avec sa famille, donc elle était légale ou illégale, ça c'est encore d'autres questions. Mais cette blessure de séparation avec sa première famille, avec ses parents biologiques, ça va marquer la personne toute la vie, sur tous les pans de sa vie, donc que ce soit affectif, émotionnel, intellectuel. Et puis ça peut être rappelé ou ravivé à différents moments, notamment dans les relations avec les autres enfants, les parents. les professeurs. Et puis en fait, c'est des personnes qui ont eu souvent aussi des carences affectives et développementales au tout début de la vie, parce que même si dans les institutions les personnes essaient de s'occuper bien des enfants, il y a beaucoup d'enfants et c'est compliqué, il n'y a pas du soin personnalisé, on va dire. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir toutes ces blessures, et puis au fur et à mesure du temps et de la vie, à l'adolescence notamment, quand tout ressort, ces fragilités ou ces blessures qu'il peut y avoir, ça s'amplifie.
Est-ce que ça fait une différence d'avoir une famille où il y a des enfants adoptés avec une fratrie d'enfants qui, disons, biologiques des parents adoptants, ou seulement l'enfant ou les enfants adoptés ? Je ne sais pas si ma question est claire.
Est-ce que c'est mieux ?
Oui, elle est claire, mais je pense que c'est très difficile de répondre. Enfin, on ne peut malheureusement pas faire des études psychologiques
là-dessus. Il n'y a pas de statistiques là-dessus ?
Non, il n'y a pas de statistiques là-dessus, parce qu'en fait, c'est une question, c'est un projet très personnel. Donc,
oui, c'est vraiment du cas par cas.
Et puis, on peut pas vous dire vraiment, oui, il faut bien adopter un autre enfant pour que l'enfant ne soit pas seul. Vraiment, c'est comment les décisions que vous prenez pour n'importe quelle famille. Par contre, où on peut dire, effectivement, les conventions internationales ont tendance à favoriser l'adoption de la fratrie.
On va accueillir Véronique, qui nous appelle du Jura, au 0808-208. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Bienvenue.
Alors moi, je voulais raconter mon histoire, parce qu'on a adopté très jeune, en fait. On avait 24 ans.
Ah oui.
On était mariés, ça faisait que 3 ans, mais le temps d'adoption, il faut 2 ans que l'enfant soit là, donc on a pu adopter au délai des 2 ans, ça a joué, donc ça faisait juste 5 ans de mariage. Mmh. On a adopté une petite fille qui avait le même âge que notre fille naturelle, elles ont 5 semaines de différence, et puis quand on avait 28 ans, on a adopté notre 3e enfant, un petit garçon. Ils venaient les deux de l'Inde, et puis les deux étaient orphelins. Et il y a eu des problèmes comme dans toutes les familles, mais je dois dire que tout s'est bien passé. C'était quelque chose, une histoire vraiment que nous on a trouvé merveilleuse. On leur a toujours dit, c'était eux qui nous avaient vraiment aidés en acceptant notre famille.
Mmh.
C'était pas nous qui, voilà. On avait décidé que on était une famille pour tes enfants, pas des enfants pour une famille. On n'a pas choisi nos enfants, on n'a pas dit je veux un garçon, je veux une fille, je veux... On avait juste dit, vu notre jeune âge, on ne pouvait pas adopter un enfant de 10 ans, évidemment.
Mmh.
Fallait que les choses soient à peu près normales, quoi.
Mmh. Oui.
Et puis un jour, notre fils, qui était déjà adulte, on était tous en famille, il nous a dit, mais moi, j'ai toujours su que j'étais adoptée, mais j'ai jamais senti que j'étais adoptée.
Mmh. Merci pour ce témoignage, Véronique. Ça fait passer un ange dans le studio. Là, on écoute, on est tous un peu songeurs.
Et un silence d'une très belle qualité, en tout cas.
Tout à fait, absolument.
Qu'on brise parce qu'on fait de la radio. Mais...
C'est ça. Macarena Facio, je vous vois sourire.
Oui, j'ai remercié ce témoignage qui est tout à fait poignant. Magnifique témoignage. Je voulais juste... Peut-être comme on parle des choses pratiques au guichet, je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir 28 ans, pardon, et non pas 24 comme
à
l'époque.
Ça a changé, donc.
Ça a changé depuis l'époque. Et puis aujourd'hui, ce délai des 2 ans n'est pas non plus demandé. Parce qu'à l'époque, les enfants arrivaient en famille, ça avait un tuteur, une tutrice. Et puis après 2 ans, c'était que la famille pouvait l'adopter finalement. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fait, si maintenant on a un enfant biologique ou on pense avoir des enfants, il faut savoir que l'enfant biologique, ça sera toujours l'aîné de la famille. On respecte l'ordre dans la famille, dans la fratrie. Donc on ne pourra pas, en principe, adopter un enfant du même âge que de l'enfant biologique. Peut-être
ou qui viendrait détrôner l'autre de sa posture.
Voilà, de sa position. Sauf éventuellement, et pourquoi pas, s'il s'agit d'une fratrie. Par exemple, vous avez un enfant biologique qui a 6 ans et puis vous êtes prêt à accueillir une fratrie dont il y a un enfant de 8 ans. Mm-hmm. Bon, peut-être. On verra les cas précis. Mais disons, les choses ont changé, pour bien ou pour mal. Mais voilà, les règles aujourd'hui sont différentes du joli cas que nous venons d'écouter.
Là, dans le témoignage, donc un des enfants, peut-être les deux, j'ai pas retenu, venait d'Inde. Quand on grandit avec effectivement des origines ethniques différentes de nos parents, on doit se sentir différent. Mais est-ce que ça peut avoir des incidences? Est-ce qu'on va être confronté à du racisme, etc. Parce que ethniquement, c'est clair que on vient pas d'ici. Si t'arraches un mot.
Oui. Alors malheureusement, faut répondre oui. Que ce soit parfois même de nos proches ou dans la famille, voire la famille élargie, et puis dans la société plus largement. Donc on parle aussi des adoptions des années 80 en Suisse, donc aussi une période où il n'y avait pas forcément beaucoup de mixité culturelle. Et puis on est confronté donc à des remarques, à des choses. Et ce qui peut être difficile aussi à vivre, c'est que on est ce qu'on appelle un peu whitewashingé, donc un peu lavé de nos origines aussi.
Il y a blanc dedans. Et
voilà. Parce qu'évidemment, donc on a une culture, enfin, on est un migrant, une migrante, mais effectivement, il y a une décision administrative qui a fait qu'on est arrivé dans notre pays d'adoption. On est élevé par des parents et des familles souvent blanches. Et puis, finalement, on n'est pas comme un migrant dit classique, puisqu'on vient pas avec notre famille, etc.
Donc,
on n'a pas les référents culturels, la langue, ou la nourriture, ou voilà, de toutes ces choses qui vont avec. Donc aussi, on est des fois seul dans ce ressenti, puisque nos parents adoptifs n'ont pas vécu de racisme ou d'autres choses de cet ordre-là.
Et comme eux-mêmes ne vous voient pas comme une étrangère, parfois ils n'arrivent pas forcément à comprendre.
Oui. Et parfois, nous-mêmes, on doit se rappeler, parce qu'en fait, ça vient finalement de l'extérieur, même si on sait nos origines et qu'on les connaît. Parfois, les remarques viennent de l'extérieur en disant tout le temps d'où tu viens, qui sont tes vrais parents, cette fameuse question qu'on n'aime pas trop. Et voilà, toutes ces choses autour de nos origines qu'on n'a pas forcément demandé non plus.
Macarena Facio.
Merci. Oui, la question est très très pertinente, notamment pour les candidats à l'adoption. Nous recevons souvent des personnes qui disent « mais nous, on est colorblind », c'est-à-dire on voit pas la couleur. Peut-être les candidats à l'adoption voient pas la couleur, mais la société entière, oui. Donc et ça, c'est une condition aussi. Il faut que les candidats à l'adoption sachent qu'ils doivent se préparer à accompagner leur enfant qui va subir certainement du racisme. Les niveaux sont différents, toujours, mais la société suisse, c'est pas parce que c'est la société suisse qu'on n'est pas raciste. On l'est tous, à un degré ou à un autre.
Il nous reste 10 minutes pour parler d'adoption à ce guichet dont on en parle et on accueille Marie qui nous appelle de Genève au 0800 108 208. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Moi je voulais juste apporter un témoignage. J'ai adopté une petite fille il y a 20 ans. Donc c'était un peu compliqué avec le service de l'adoption. Ça a pris 7 ans. Donc ça, il faut... Enfin, maintenant, peut-être, les conditions se sont améliorées. Mais je pense que la première chose qu'il faut dire aux enfants, enfin, disons, aux parents qui veulent adopter, c'est que beaucoup de parents qui veulent adopter veulent avoir un bébé. Et il faut mettre en garde les gens dont je vois, dans l'association dont je fais partie, plusieurs enfants adoptés donc ont des très graves problèmes d'autisme, même arrivés avec le sida. Je vous parle de 20 ans donc, hein, et avec vraiment des problèmes. Donc la recommandation, même si on veut avoir un bébé, je pense qu'il faut essayer d'adopter après 3 ans voire 4 ans. Ma fille, lorsqu'on l'a adoptée, elle avait 3 ans. Mmh. Première chose. Deuxième chose, il faut ne jamais... Bon, dire toujours un enfant adopté, elle vient du Népal, donc on voit qu'elle n'est pas d'ici, entre parenthèses. Toujours dire à l'enfant, le relier à ses origines. Donc nous sommes retournés au Népal, elle avait 8 ans. Et à 8 ans, lorsque nous sommes retournés, on a demandé à pouvoir parrainer 2 autres enfants qui... eux n'avaient pas été, enfin, de famille, mais de famille très pauvre. Donc, on les a parrainés pendant 20 ans. Maintenant, elles sont mamans.
Merci.
Deuxième chose.
Oui, oui. Alors, rapidement, parce qu'on va faire réagir nos invités.
Dire que nous avons, après des années, pu retrouver sa famille biologique. Et ça extrait, il faut préparer les enfants à retrouver sa famille biologique. Et nous l'avons retrouvée, elle a demandé à sa majorité. Donc, on s'est retrouvé dans un village très éloigné, dans une extrême pauvreté, pour apprendre que ses deux parents biologiques étaient décédés. Donc, préparer l'enfant. Deuxième chose importante, elle avait un frère. Elle a été séparée de son frère et malgré des recours juridiques avec la famille adoptive, donc du frère en Italie, ils ont toujours refusé de voir donc la sœur de leur fils adoptif. Ça, ça a été un autre traumatisme important. Donc, rassurer s'ils ont des enfants.
On va peut-être faire réagir, s'il vous plaît, Marie, parce que vous dites beaucoup de choses, donc ça fait, je vois que Macarena Facio, a envie de réagir à ce que vous dites. Macarena Facio, qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Marie?
Alors, c'est très intéressant. On voit aussi que c'était une autre époque. Je vais très vite démystifier quelque chose. Aujourd'hui, l'adoption des bébés, elle est pratiquement impossible. Il faut savoir que dans le monde, contrairement à ce qu'il pense le public en général, il n'y a pas des milliers de bébés qui attendent à être adoptés. Ça, c'est faux. Donc aujourd'hui, la moyenne d'âge d'un enfant qui est adopté en Suisse, c'est un enfant qui aura 4 ans. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, très vite, je pense que Sita aussi va réagir. Effectivement, c'est très important d'être accompagné pour la recherche d'origine parce qu'on part à la recherche de quelque chose, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver.
Oui, justement, c'est ce que dit Marie, de par exemple découvrir que ses parents biologiques sont décédés, que la famille vit dans une extrême pauvreté, ça peut être un choc, Sitara Chameau.
Oui, donc c'est des choses avec lesquelles on échange avec les adoptés qui nous sollicite. La recherche des origines, c'est quelque chose de très long, de très compliqué, qui peut durer toute une vie. Après, comme je disais au tout départ, il n'y a pas forcément la rencontre avec la parenté biologique, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Quand ça arrive, ça peut aussi être des situations finalement encore plus difficiles à vivre et il faut préparer aussi à ces éventualités.
Marie, vous êtes toujours en ligne ?
Marie.
Oui, alors la dernière chose, parce que vous vouliez... Alors, rapidement, s'il vous plaît.
Très importante, ma fille a souhaité, donc, c'était un peu émouvant pour moi, elle a souhaité retourner, donc, au Népal, et elle y est actuellement.
Oui.
Elle veut vivre, elle veut rester quelques mois pour s'imprégner vraiment de son pays d'origine. Et ça, c'est important, c'était un peu dur pour moi, mais elle est partie, et elle y est actuellement.
Oui, merci beaucoup de ce témoignage et merci aussi de partager votre émotion avec nous, Marie. C'est vrai que ça peut être aussi un traumatisme pour les parents, Macarena Facio, de voir tout à coup son enfant un peu se détacher de soi. Et...
Voilà, on parle beaucoup en fait des personnes qui cherchent des origines, peut-être pas assez des parents, mais nous par exemple on a actuellement un séminaire, un groupe qui s'est créé spécialement pour les parents dont les enfants cherchent des origines. Parce qu'effectivement, ça peut être un traumatisme aussi pour les parents. C'est difficile d'aller voir partir, comme pour toute famille. Mais quand il y a des situations irrégulières ou illégales, d'autant plus puisqu'ils sont confrontés à des choses qu'ils ne s'attendaient pas. Ils sont adoptés de bonne foi, donc c'est important aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit nos associations ou d'autres personnes. Il faut toujours chercher de l'aide pour ces recherches. Oui.
Muriel.
Oui, donc là, on évoque des personnes qui ont déjà adopté. Là, il nous arrive des questions de personnes qui souhaitent adopter. Par exemple, il y a Alice qui nous dit qu'avec son compagnon, il souhaite adopter dans le futur. Tous les deux travaillent dans le domaine de la culture avec des irrégularités salariales. Et il se demande elle se demande quel est le critère financier pour être candidat à une adoption, Macarena Facio.
Alors, il n'y a pas de critères financiers fixes. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent démontrer qu'il y a une capacité pour s'occuper de l'enfant. Donc, ça sera à l'autorité pertinente d'évaluer cette capacité, mais ce n'est pas une question des moyens. On ne va pas demander que la personne soit riche, qu'elle ait une voiture. On demande juste que la personne ou les couples soient capables de s'occuper de l'enfant.
C'est un chameau. Je vois dans vos yeux que vous voulez réagir.
En fait, c'était plus général sur les parents adoptifs. Donc, comme on vient de l'entendre aussi avec le témoignage, c'est que, au-delà de prétentions salariales, c'est vrai qu'il faut avoir une ouverture face au monde et face à la famille, puisque, comme on l'a vu, on accueille un enfant qui a déjà une première famille, qui existe, qui a d'autres origines, etc. Donc, en fait, on devient parent à part entière d'un enfant qui a déjà une autre histoire de vie. Et du coup, c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. Et puis, la recherche des origines, elle fait partie entièrement de l'adoption internationale.
Une dernière question, si la réponse peut être brève, c'est de savoir, est-ce qu'un enfant adopté a le droit de changer son prénom à l'état civil une fois adulte ?
Oui.
Ah bah voilà, c'est une réponse claire et nette et rapide.
Merci en tout cas à nos deux invités. On va conclure peut-être par ce très joli témoignage de Michael par WhatsApp. Il nous dit « J'ai eu de la chance d'être adopté dans les années 90. Mes parents adoptifs m'ont ramené en Suisse dans une situation d'urgence suite à un début de guerre civile. Et après coup, la demande d'adoption a été faite. Je les remercie d'avoir pris ce risque. Autrement, je ne serais sûrement plus de ce monde. J'ai eu la chance de retourner une dizaine d'années plus tard dans mon pays d'origine et je n'ai pas apprécié du tout. Donc la pauvreté m'a choqué de voir des enfants du même âge que moi, malades, maigres. Mon réconfort dans mon adoption, c'est peut-être égoïste de ma part. Je pense y retourner maintenant dans ce pays, il ne cite pas lequel, maintenant que je suis adulte, mais il me faut encore de la force mentale. » Voilà ce que nous dit Michael. Merci à toutes les deux. Macarena
Merci.
Facio, directrice de Espace A, et Sitara Chameau de l'association Barreau, le bureau d'aide à la recherche des origines. Vous répondiez à l'invitation de Muriel Mera. Très bonne journée à toutes les deux.
Bonne journée.
Merci.
Et demain, c'est cuisine. On parlera d'un poisson au guichet, un poisson qu'on retrouve dans beaucoup de recettes, le saumon. Saumon d'élevage ou sauvage, lequel choisir, comment l'apprêter? On répondra donc à toutes vos questions dès demain, entre 9h et 10h.
On en parle. Philippe Gérard. On en parle.